La science est une démarche de connaissance comme les autres.
La Terre va entendre ces mots.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Une sorte de relativisme absolu.
La science est un discours.
C'est un petit pas pour un homme et un bond de géant pour l'humanité.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
On appelle prétentieusement une théorie du tout.
Inversion complète de la charge des protons.
La philosophie n'est pas un ustensile.
On a pareil.
Voici notre itinéraire.
Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans cette nouvelle édition de La Science s'amuse, l'émission qui vous emmène en croisière scientifique dans les laboratoires de l'archipel Muse. Mauvaise liaison. Et cette semaine encore, c'est un sujet d'actualité que nous vous proposons. Un sujet brûlant, pas à varier, même s'il vous semblera sûrement peu varié dans l'invraisemblable réalité que ce virus nous fait vivre depuis un an. De la Vendée jusqu'au Var, en passant par la Vienne ou les Vosges, nous en parlons tous invariablement. Les variants. Alors que nos voyages se font virtuels et que nos rêves d'évasion avortent, eux s'envolent d'une ville à l'autre. Nouvelle vague dans la vague, rivaux viraux du Covid 2020. Virulent dans sa version anglaise, point d'interrogation, versatile en variété sud-africaine, leur évolution face au vaccin met en vrac le ministre Véran et nous avec. Alors avant de partir en vrille, et parce qu'un auditeur averti en vaut deux, nos invités du jour sont les vestales de l'épidémiologie au laboratoire MIVEGEC. Ils ont réalisé et rédigé en février une analyse concernant la propagation de ces souches qualifiées de variants et annoncé un peu avant tout le monde que la propagation était peut-être un peu plus avancée que nous le pensions. On en discute avec eux pendant les 20 minutes qui suivent. Samuel, Alizon et Mircea Sofonea, bonjour.
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 Avec moi comme chaque semaine pour mener cette interview, l'invariable Aline Perriot.
Bonjour.
Pas de seconde partie d'émission cette semaine puisque nous vous proposons une interview grand format. La science s'amuse, vous avez la carte, on embarque. Alors pour commencer, on va faire une petite leçon de vocabulaire. Est-ce que vous pourriez nous expliquer exactement ce que c'est qu'un variant? Quelle est la différence avec un mutant, par exemple? Donc je ne sais pas lequel d'entre vous veut répondre. Samuel, Alizon.
Allez, je vais me lancer. Donc ce virus, comme tous les virus, évolue. Et effectivement, avec des mutations, à chaque fois qu'il produit des nouveaux virus, il y a des petites erreurs dans son matériel génétique. Mais il ne suffit pas de mutations comme ça au hasard pour faire un variant. Un variant se distingue parce que l'infection qu'il cause va être différente. On va parler d'un phénotype différent, des symptômes différents, des infections causées par des non-variants. Et donc là, en l'occurrence, ce qu'on a vu fin 2020, et on avait déjà eu un épisode avant, c'est des nouveaux virus qui déjà avaient plus de mutations que la moyenne, mais surtout causaient soit des infections plus contagieuses, soit des infections qui pouvaient échapper à la réponse immunitaire. Donc c'était des infections qui, de par leur manifestation, étaient différentes de ce qu'on avait vu jusqu'alors. C'est pour ça qu'on parle de variants.
Alors, on entend aussi des fois le mot souche. On est dans les... C'est la même chose, c'est les
mêmes
souches.
Nous, on parle généralement plutôt de souche, voilà, pour définir un virus qui va avoir des propriétés, donc encore une fois, phénotypiques différentes. C'est pour les distinguer vraiment de ces lignées. La lignée, ça va être quelque chose de neutre. La souche ou le variant, ça va être quelque chose de non neutre.
Et du coup, parmi toutes ces souches dont vous parlez, pourquoi est-ce qu'il y en a certaines qui vont disparaître alors qu'il y en a d'autres qui vont persister, s'installer dans le paysage et même devenir majoritaires?
Alors, il y a deux processus qui vont un peu se télescoper. Peut-être que Mircea pourra rebondir là-dessus. Mais vous avez de toute façon un processus qui est un peu lié au hasard. Vous avez certaines souches qui par hasard, vont s'éteindre et d'autres qui vont l'emporter. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vu beaucoup dans cette épidémie, en fait, quasiment jusqu'à la fin 2020, à part pour une souche qui portait une mutation, la D614G, où là, on pense qu'il y avait un avantage. Et donc la deuxième raison où on voit parfois certaines lignées devenir dominantes, enfin croître et devenir dominantes, c'est qu'elles ont un avantage par rapport aux autres. Et toute la difficulté en fait dans notre travail, quand on fait de la biologie de l'évolution, ça va être de distinguer qu'est-ce qui est dû au hasard, qu'est-ce qui fait qu'on voit qu'une lignée augmente par hasard, juste parce qu'elle était là la première ou autre, et qu'est-ce qui est lié à cet avantage sélectif, à cette adaptation, et souvent séparer les deux processus n'est pas vraiment simple.
Et du coup, on parle de plusieurs variants. Maintenant, on parle du variant britannique, du variant sud-africain, variant brésilien, Myrcea sophonea. Est-ce qu'on a une idée de pourquoi, si c'est le cas, il y a une apparition concomitante comme ça de tous ces variants aux quatre coins de la planète ?
Alors ça, c'est une question qui est très intéressante, mais elle est fortement liée à notre capacité de détecter ces variants, en fait. Si vous voulez, on n'a pas toujours eu le même effort de détection, le même effort de séquençage. Et effectivement, il n'y a rien qui cliniquement distingue l'infection par les souches dites historiques d'une infection par la souche, par le variant britannique, par exemple. Donc, si on ne fait pas cet effort-là proactif de séquençage, on peut pas voir effectivement s'il y a des nouveaux variants qui circulent. On ne le verra qu'avec un certain retard, quand en particulier on s'intéressera effectivement à des trajectoires épidémiologiques un peu différentes, ou bien lorsque on séquence massivement comme le Royaume-Uni. Dans ce cas-là, effectivement, ce qui se passe, c'est que on a vraisemblablement un variant britannique, B117, qui serait apparu en septembre dans le sud-est de l'Angleterre. Mais évidemment, pour le moment, on n'a aucun moyen de savoir dans quelles circonstances il serait apparu. Il n'y a que des hypothèses qui circulent. Une des hypothèses, c'est que ce variant est émergé, c'est le terme approprié pour dire qu'il y a une nouvelle lignée qui apparaît suite à une mutation qui est sélectionnée dans le sens où elle commence à augmenter en fréquence dans la population, dans les nouvelles infections. Cette hypothèse est celle d'une infection longue, de Covid long ou de Covid, on va dire, persistant, chez une personne immunodéprimée. Ça, c'est une des hypothèses majeures qui serait mise en avant. C'est encore une fois, comme l'a dit Samuel Alizon, les mutations, elles apparaissent dans toutes les infections. Et même une infection tout à fait banale peut être à l'origine, en fait, de ce type de mutation. Il se trouve que la mutation est tombée sur ces mutations, puisqu'en fait, c'est plusieurs mutations, sont tombées, en fait, sur des endroits du génome qui causent un changement phénotypique qui confère une surcontagiosité.
Alors justement, vous avez dit ces variants. On sait aujourd'hui combien on en a dénombré, combien ont été identifiés à ce jour des variants.
Aujourd'hui, on peut dire qu'il y en a à peu près 5 qui ont été bien décrits, parce que encore une fois, c'est pas simple. Il s'agit pas juste de montrer qu'on a beaucoup d'infections, parce que ça peut juste être une lignée qui s'est propagée par hasard. Le premier variant qu'on pourrait appeler est aujourd'hui devenu tellement majoritaire qu'on retrouve sa signature partout. C'était associé à une mutation en position 614, la mutation D614G, qui est apparue au premier trimestre 2020 et qui, s'est répandu partout. Donc maintenant, quasiment tous les virus ont cette mutation. Et là, il y a eu des études qui ont montré que les virus qui portaient cette mutation étaient plus transmissibles. Et encore, bon, l'effet était relativement limité.
Là, vous parlez du variant anglais ou de...
C'est un premier variant, en fait, par rapport à la souche originale qui a été décrite à partir de décembre. Mmh. On a vu très vite une lignée qui portait cette mutation et qui est devenue majoritaire au niveau mondial, avec là une difficulté pour savoir s'il y avait vraiment un avantage ou si c'était plus le fait de lier du hasard. Mais déjà, il y a déjà eu un peu un remplacement, si vous voulez, avec cette mutation D614G. Ensuite, il y a eu... Alors, on essaye d'éviter de parler de variants anglais ou sud-africains pour des raisons de discrimination. En fait, c'est quelque chose qui a été mis en place historiquement, parce qu'il y avait une mutation d'antibiorésistance aussi qui a été décrite en Inde et qui, pendant assez longtemps, a été caractérisée comme la New Delhi Mutation. Et depuis, il y a des efforts au niveau de l'OMS pour justement éviter d'associer une souche ou un pathogène à un lieu particulier. Mais donc, effectivement, il y a cette lignée B117, ce qu'on appelle le variant numéro 1 aujourd'hui, qui, lui, semble être le premier de ceux qui nous intéressent aujourd'hui à avoir émergé. On a vu peu de temps après un second variant, donc la lignée B1.153, qui, lui, a émergé en Afrique du Sud. Et ensuite, deux autres au Brésil. Et là, c'est assez intéressant parce que les deux ont eu lieu au Brésil, mais on pense que c'est des événements indépendants. Et là, ce qui est intéressant aussi pour compléter sur pourquoi ces variants apparaissent maintenant, il semble que cette lignée P1 au Brésil, ces variants 3 et 4, soient associés à un échappement immunitaire. Et donc, plus l'épidémie va progresser, plus il va y avoir des personnes immunisées, plus effectivement, il y a un avantage sélectif à échapper à la réponse immunitaire. Et donc là, ça fait sens aussi que des variants qui échappent à la réponse immunitaire apparaissent plus tard dans l'épidémie.
Quand on parle d'échappement immunitaire, ça voudrait dire que quelqu'un qui a été déjà contaminé par le variant historique pourrait de nouveau être contaminé par un autre variant. C'est ça, l'échappement immunitaire ?
Voilà, tout à fait. D'accord. C'est comme... prendre un exemple, par exemple la grippe, que vous pouvez, vous n'êtes pas immunisé à vie contre la grippe. La grippe est un virus qui évolue et donc vous pouvez être réinfecté par le virus de la grippe. Il y a d'autres virus, au contraire, le virus de la rougeole, où là vous allez être immunisé à vie. Donc là, en fait, cette évolution virale fait que, et ça je crois que ça, enfin, il y a un article qui est soumis à publication qui a été publié là sur le Brésil, mais ils ont montré que des personnes ont été réinfectées en fait au cours de la deuxième vague épidémique par le variant le variant de la lignée P1.
Pardon, juste pour rectifier une info qui circule un peu sur ce qu'on sait des variants, on entend beaucoup qu'il est plus virulent. Vous nous disiez avant l'émission que ça, on ne le sait pas s'il est plus virulent pour l'instant. Il est plus contagieux, a priori, Mircea Sofonea.
Alors, il est plus contagieux, ça, c'est ce qui a été montré en décembre par les collègues britanniques, puis les collègues danois, avec des gammes de surcontagiosité, donc il faut voir sur l'échelle du nombre de reproductions, entre plus 30% à plus 70%, donc c'était vraiment assez large. Des estimations proches pour les collègues danois. Est-ce que le travail que nous avons mené il y a quelques jours, justement, montre qu'on est sur quelque chose effectivement de similaire en France, entre 30 et 50% pour... en gamme assez large, donc 30 à 50% de surcontagiosité. En revanche, pour la surlétalité, là-dessus, à ma connaissance, il n'y a qu'une seule étude britannique qui... en fait, il y a trois études britanniques qui sont... qui se sont penchées sur la question et qui mettent en avant effectivement une surlétalité qui est de l'ordre de 30% aussi. Maintenant, est-ce que cette surlétalité a un impact visible ? Déjà, il faudrait que ce soit confirmé. Pour moi, en France, on n'a pas suffisamment de données pour identifier cette surlétalité. Et puis, il faut savoir que la létalité de la souche historique elle-même est très mal connue, en fait. Donc, finalement, on resterait dans des gammes... finalement, dans cette incertitude-là, il n'y a pas, ça ne changerait pas énormément de choses. Là où, en revanche, c'est important de distinguer la létalité de la mortalité et de la virulence, on évacue déjà le terme de virulence qui est encore plus difficile à mesurer puisqu'il s'agit de la baisse de valeur sélective sur l'hôte. Donc là-dessus, on va dire, sachant que la virulence est aussi dépendant de quel hôte est infecté. La mortalité, en revanche, c'est l'impact populationnel de la circulation du virus en termes donc, de bilan de décès. Et en revanche, c'est vrai qu'en fait, pour la trajectoire épidémiologique actuelle de l'Europe, et en particulier de la France, la surcontagiosité est un plus gros problème que la surlétalité.
Et du coup, on l'a dit tout à l'heure, Lucie en a parlé, vous avez réalisé un rapport justement en février sur la propagation des variants en France. Est-ce que vous pouvez, Samuel Alizon, nous expliquer comment vous êtes pris pour étudier cette propagation des variants ?
Oui, donc c'est un travail qui vient d'une collaboration qu'on a mis en place avec le CHU de Montpellier et aussi notamment le laboratoire Cerba qui fait énormément de tests PCR. Et donc en France, comme vous le savez peut-être, mais on n'a pas tellement développé le séquençage. Et du coup, pour suivre ces variants, ce qui a été décidé, ça a été de faire des tests PCR spécifiques. C'est-à-dire que sur tous les échantillons qui étaient testés positifs pour le SARS-CoV-2, on faisait un second test PCR afin de voir si on détectait deux motifs, la délétion en position 69-70 et la mutation mutation en position 501.
C'est-à-dire, juste pour préciser, le test PCR qu'on utilise le plus classiquement pour voir si quelqu'un est porteur de coronavirus, il ne permet pas de dire si on a affaire à un variant ou à la souche historique.
Voilà, il ne permet pas. Enfin, il y a un des tests qui qui a été utilisé. C'est comme ça que les Britanniques se sont rendus compte qu'ils avaient un variant qui circulait. C'est que certains tests ont plusieurs cibles dans le génome. Et il y a un des tests pour lesquels, avec le variant V1, la lignée B1.1.7, deux des trois cibles seulement s'allumaient et la troisième ne s'allumait pas. C'est comme ça qu'ils ont repéré que potentiellement il y avait un variant. Et d'ailleurs, on a pu utiliser ce test-là assez rapidement, mais il y a relativement, ce test est peu utilisé en France et c'est aussi pour ça qu'on a mis en place des tests spécifiques. Et donc, grâce au laboratoire Cerba qui centralise en fait ces tests un peu dans toute la France, on a pu comme ça réaliser, c'était il y a deux semaines, ouais. juste avant que Santé publique France ne publie son rapport, une analyse sur 40 000 tests permettant de suivre la propagation de ce variant, enfin des variants en France. Sachant qu'on est limité, on ne fait pas du séquençage, donc on peut juste, voilà ce que je disais, on peut détecter deux motifs qui sont une délétion et une mutation. Le variant V1 qui est apparu en Angleterre a les deux motifs. Et les autres variants, ceux qui sont apparus en Afrique du Sud et au Brésil, eux n'ont que la mutation en position 501. Et donc c'est à partir de ça qu'on pouvait avoir une première estimation. Donc on a publié un peu avant Santé publique France. Et on peut se jeter des fleurs, mais non, on a fait une analyse aussi un peu plus poussée parce que Santé publique France a donné les chiffres bruts, assez bruts, c'est-à-dire ils ont dit par tranche d'âge quelle est la proportion de variants qu'on a détectés dans la nouvelle dernière semaine. Nous, on a réalisé quelque chose quand même d'un peu plus fin. Après, on a vraiment repris les méthodes qui ont été mises en place par les collègues britanniques et danois. Je ne sais pas si Mircea, tu veux préciser un peu plus.
Ouais, mais l'idée, c'est que quand on a une propagation d'une épidémie, même en présence de variants, bon, c'est vrai que une des thématiques de l'équipe, c'est les infections multiples, le fait qu'il y ait une variété en fait de parasites, de pathogènes qui circulent dans la population et comment cela affecte l'épidémie. Ça, du coup, en fait, on s'est inspiré d'un schéma qui est assez classique en génétique des populations. C'est lorsqu'on a deux formes d'une même espèce qui se reproduisent de façon différentielle. Il y en a une qui se reproduit un peu plus vite que l'autre. Et il faut bien faire attention que du coup, on se place dans le cas où il n'y a que deux formes possibles. C'est plus compliqué lorsqu'il y en a trois ou plus. Eh bien, la courbe qui représente la fréquence du nouveau, qu'on peut appeler le challenger par rapport à celui qui est déjà en place, eh bien, suit une courbe logistique. C'est une équation qu'on peut retrouver assez facilement, hein, qui a la forme d'un S. On parle aussi de courbe sigmoïde parfois. Et en fait, la paramétrisation de cette courbe-là, d'après les données corrigées de ces RT-PCR, nous permet d'estimer de combien les variants sont plus contagieux que la souche circulante.
Et vous l'avez estimé à combien, en l'occurrence ?
Du coup, entre 30 à 50% de surcontagiosité pour les trois variants en présence.
D'accord.
Avec quand même une surcontagiosité plus prononcée pour le variant V1 apparu en Angleterre par rapport au variant apparu au Brésil ou en Afrique du Sud. Le variant V1 semble, lui, plutôt de l'ordre de 50%, alors que pour les autres, on est plutôt dans le bas de la fourchette. Ouais.
Alors, comment ces résultats, ils modifient finalement vos scénarios possibles ? Samuel Alizon, peut-être.
Mircea a parlé un peu tout à l'heure du nombre de reproductions. Je pense que les auditeurs doivent être assez familiers avec ça maintenant, mais c'est une donnée assez clé pour contrôler une épidémie. C'est le nombre moyen qu'une personne infecte au cours de son infection. Et on avait montré assez tôt, nous, en mars, qu'en France, parce que c'est un chiffre qui est vraiment spécifique à la population, ce nombre de reproductions était aux alentours de 3. C'est un nombre important parce que ça vous dit aussi, dans un scénario simpliste, mais quelle est la proportion de la population qui doit être immunisée pour empêcher un redémarrage de l'épidémie. Donc avec un R0 de 3, vous devez, en scénario très simpliste, protéger les deux tiers de la population. C'est 1 moins 1 sur 3. Avec une surcontagiosité de 50%, vous n'avez plus un R0 de 3, mais un R0 de 4,5. Et donc, vous voyez que vous êtes dans un autre scénario en termes de, ne serait-ce que de la proportion de la population immunisée pour empêcher la propagation de l'épidémie. Donc, ça va de fait compliquer la gestion. Et c'est quelque chose dont on voit un peu les prémices aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui, depuis une semaine à peu près, un redémarrage d'une épidémie qui était plus ou moins sous contrôle, qui stagnait, mettons, depuis les dernières vacances.
Et justement, on parle de mesures de contrôle de l'épidémie. On voit qu'on commence à mettre en place des mesures locales dans l'Est ou dans les Alpes-Maritimes. Est-ce que, d'après vous, c'est pertinent comme mesure d'agir à des niveaux plus locaux ?
C'est quelque chose qui est pas nouveau hein. Dans la littérature. Ça a émergé depuis le printemps 2020, en fait. En France, c'est vrai qu'on a connu que des mesures nationales jusqu'au confinement de la Mayenne en juillet, c'est vrai, mais c'était exceptionnel. Ensuite, très vite, ça a été on est revenu sur un schéma national, et donc il a fallu attendre presque un an avant de voir émerger en France ce type d'approche. Alors ces approches-là, elles étaient d'abord développées d'un point de vue théorique, avec un article paru dans l'été par des collègues canadiens qui montraient que une gestion proactive à l'échelle de la centaine de milliers d'habitants était plus efficace, non seulement d'un point de vue sanitaire, mais aussi moins coûteuse économiquement que des mesures qui s'appliquaient aux millions d'habitants, donc plutôt de la taille d'une région, d'une province dans leur cas. Et ensuite, effectivement, on a vu ce type d'approche développée, par exemple, en Allemagne, avec le reconfinement partiel de la Bavière en octobre. Globalement, l'Allemagne a une stratégie plus proactive, plus territorialisée, aussi dû au fait qu'ils ont un système fédéral. Néanmoins, c'est évident que il faut quand même, c'est une banalité de le dire, mais le Covid-19, c'est une maladie virale respiratoire. Elle se propage donc par le contact des personnes, en tout cas leur présence rapprochée. Donc elle se propage de proche en proche, et effectivement, vous avez des événements de superpropagation, vous avez des événements des facteurs, des déterminants environnementaux locaux qui favorisent la reprise, le rebond épidémique dans certaines régions plutôt que d'autres, dans certains territoires. Ça peut être au niveau d'une métropole comme d'un département. Et donc, nécessairement, vous n'allez pas avoir la même trajectoire. Et c'est pour cela que un endiguement des rebonds là où ils démarrent permet d'épargner les territoires qui ont une trajectoire épidémique plus favorable. Effectivement. Mais ça suppose de les détecter et d'être réactif et de prendre des mesures rapidement, parce que sinon le rebond, là où il est apparu, se propage aux alentours, et ensuite c'est toute la région qui est affectée. On a vu dans le cas des Hauts-de-France, on a vu dans le Grand Est. Donc effectivement, c'est quelque chose qui est tout à fait pertinent, mais à condition qu'il soit mis en place tôt.
Et est-ce que là, on est encore dans le bon timing alors?
Si vous voulez, le confinement le week-end dans les Alpes-Maritimes, en fait, c'est pas vraiment les Alpes-Maritimes, c'est vraiment juste le littoral et à Dunkerque, oui, peut revenir à un état de stationarisation, de figer à nouveau l'épidémie où elle se trouve, éviter un emballement hospitalier, attention, dans le contexte actuel de circulation des variants. C'est pas quelque chose qui est pérenne sur plusieurs semaines. C'est quelque chose qui permettra d'éviter une explosion sur le court terme. Mais attention, ces variants sont surcontagieux. Ils circulent beaucoup dans ces territoires. Et malheureusement, on peut craindre que d'ici un mois, sachant que ces mesures ont été prises pour 2 semaines, d'ici un mois, il y ait à nouveau un rebond qui soit observé.
Et du coup, juste pour revenir un peu sur la situation, j'imagine que quand on devient épidémiologiste, on ne s'attend pas à faire la une des médias comme vous. Vous avez été très sollicité pendant cette année-là, depuis un an. Comment est-ce que vous l'avez vécu, cette exposition médiatique ? Est-ce que ça a influencé votre travail ?
Ça a directement influencé notre travail, parce que les journées font 24 heures. Donc en fait, c'est-à-dire au début, pendant la pandémie, effectivement, toutes les autres activités ont été arrêtées, on ne faisait que ça. Mais ensuite, le travail normal a repris. Donc tous les projets de recherche, nous par exemple, on a une étude clinique en ce moment avec le CHU de Montpellier, un gros projet autour de ça qui a repris. Pour mon collègue Mircea Sofonea, ses cours ont repris à 180 heures la charge complète. Donc effectivement, tout ce travail de Covid et les sollicitations médiatiques, c'est devenu extrêmement compliqué d'arriver à tout faire. D'autant plus que c'est vrai que ça, on a été surpris. En fait, une des raisons pour lesquelles on s'est mis à travailler là-dessus de manière aussi intense, c'est au final parce qu'on ne voyait pas grand-chose sortir de la part d'autres équipes. Et c'est vrai qu'on avait un peu surestimé le nombre d'équipes qui font de la modélisation en épidémiologie des maladies humaines. Il n'y en a pas tant que ça. Un certain nombre répondent assez peu aux sollicitations médiatiques. On ne va pas donner de nom, mais on a d'excellents épidémiologistes que vous ne verrez quasiment jamais dans les médias. Et donc tout ça, oui, fait que, on s'est retrouvé à faire un travail qui, pour beaucoup, par exemple, cette analyse des variants qu'on a faite, honnêtement, c'est le boulot de Santé publique France de le faire. D'ailleurs, ils auraient pu le faire. Nous, on a utilisé 40 000 tests. On avait un tiers des tests faits à peu près. Eux, ils avaient le triple. Et à ce jour, ils n'ont toujours pas fait cette analyse qui nécessite quand même des compétences en statistique qu'on a nous. Et là, on voit aussi des limites plus au niveau appliqué en santé publique française, qui est que la modélisation mathématique et statistique n'a pas bonne presse dans le monde médical, en règle générale en France, et en particulier dans la santé publique. Et effectivement, Santé publique France n'a pas de département de modélisation et vraiment limité là-dessus. Donc, donc pour répondre de court à la question, oui, les journées sont longues.
Et pour vous, Mircea Sofonea, qu'est-ce que vous garderez de cette année, en espérant que ça se limite à cette année?
Non, mais c'est vraiment une expérience tout à fait inédite. En tant qu'enseignant-chercheur, j'ai vu un peu dans la continuité de mon travail d'enseignement, sachant qu'il me semblait vraiment important. Nous a vraiment tous semblé important que les Français, via les médias, parce que c'est, si vous voulez, on pouvait publier des rapports, mais s'ils n'étaient pas relayés, ça n'avait pas beaucoup d'impact, que les Français comprennent comment est-ce qu'on mesure quantitativement, d'où viennent ces indicateurs, comment est-ce qu'on décrit cette épidémie pour mieux comprendre pourquoi est-ce que l'on prend ces décisions-là, pourquoi est-ce que les gestes barrières doivent être appliqué, pourquoi est-ce que on peut s'inquiéter ?
Ça conditionne l'acceptabilité sociale.
L'acceptabilité, l'adhésion, la compréhension et ce qui a été mis en avant par les études et méta-analyses qui ont fleuri ensuite au cours de l'été à l'automne, que l'éducation de la population, la pédagogie était le levier le moins cher qui a le meilleur rapport bénéfice sur coût. Ça coûte presque rien et c'est un bénéfice énorme d'éduquer la population en fait au sujet de cette épidémie, non seulement d'un point de vue virologique médical, mais aussi d'un point de vue épidémiologique, c'est-à-dire pourquoi est-ce que on prend ces mesures, pourquoi est-ce que ces indicateurs-là sont importants, est-ce qui permet aussi de prévenir des discours fallacieux qui malheureusement ont aussi fleuri avec cette pandémie. Donc véritablement, ici, c'est retrouver à la fois le côté recherche, contribuer en fait à cet effort parce que nous disposions de ces méthodes-là, de ces outils-là qui étaient notre quotidien, appliqués à ce nouveau pathogène, mais en même temps, promouvoir une forme de connaissance scientifique qui permettrait aussi d'être un levier de santé publique.
Un grand merci à vous deux, Samuel Alizon et Mircea Sofonea, pour cette longue interview. Donc la Science s'amuse, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Adeline Flock pour la réalisation de cette émission. Bon rétablissement à notre collègue Norian, rattrapé par le variant anglais. Il ne faut pas dire le variant anglais, mais je n'ai pas retenu le nom. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, amusez-vous bien.
La science est une démarche de connaissance comme les autres.
La Terre va entendre ces mots.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Une sorte de relativisme absolu.
La science est un discours.
C'est un petit pas pour un homme et un bond de géant pour l'humanité.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
On appelle prétentieusement une théorie du tout.
Inversion complète de la charge des protons.
La philosophie n'est pas un ustensile.
On a pareil.
Voici notre itinéraire.
Au revoir, la croisière vous a plu ?
Oh oui, beaucoup, c'était merveilleux.